Bienvenue dans la rubrique Point de vue de Classe Tourisme qui donne la parole aux professionnels du tourisme. Bonjour Jean-Pierre Pinero, vous êtes directeur de l'Office de tourisme du Portugal à Paris. Où en est la situation sanitaire du pays avec le Covid-19 et quelles sont les mesures imposées actuellement ?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, nous sommes dans une phase descendante donc de la pandémie. Nous avons eu la chance d'être parmi les destinations en Europe les moins touchées. Et de ce fait, nous avons d'ores et déjà entamé les premières phases de déconfinement, puisque depuis le 4 mai dernier, les Portugais sont en phase de déconfinement, avec notamment un calendrier progressif de réouverture des activités, et notamment des restaurants et des cafés qui sont réouverts depuis le 18 mai, et ainsi que les musées et les plages qui vont réouvrir à partir du 6 juin prochain. Donc voilà, nous nous préparons à l'activité touristique, et d'ores et déjà, les nationaux, donc les Portugais qui vivent sur place, peuvent d'ores et déjà profiter donc de ces lieux qui ont été fermés depuis le début de cette pandémie.
Alors, quel protocole sanitaire va être mis en place pour accueillir les visiteurs au Portugal cet été ?
Oui, eh bien, en fait, il y a d'ores et déjà, c'est important de le signaler, il n'y aura pas de quarantaine aux frontières, imposée donc aux visiteurs, ni dans les aéroports, ni aux frontières terrestres. Il n'y aura pas non plus d'obligation de mesure de la température aux touristes qui nous visitent. Si ce n'est par les opérateurs ou par les compagnies aériennes qui peuvent, elles, décider de faire ces mesures de température, par exemple, ces filtres, pour monter dans leur avion. Mais ce n'est pas une demande du gouvernement et ce n'est pas une demande des autorités portugaises. Par ailleurs, les règles qui vont être mises en place un peu partout, dans les restaurants, dans les cafés, dans les hôtels, sont évidemment des règles très très proches de ce que l'on trouve un peu partout en Europe, c'est-à-dire les règles de distanciation sociale, les basiques qui sont préconisées par les autorités sanitaires au niveau européen, mais aussi au niveau de l'Agence nationale sanitaire portugaise. Donc c'est une certaine distanciation, c'est l'équipement des lieux, notamment des hôtels, par les masques, les gels hydroalcooliques, le nettoyage approfondi des espaces communs, enfin de tout ce qui est préconisé par les autorités spécialisées. Et d'ailleurs, nous avons lancé, il y a quelques semaines maintenant, et nous avons été les premiers à le faire en Europe, un label qui s'appelle Clean and Safe, pour justement rassurer les touristes et les visiteurs, puisque ce label est d'ores et déjà en place auprès de 7500 entreprises portugaises, principalement des hôtels, parce que ça a commencé par les hôtels, ensuite des cafés et restaurants qui ont aujourd'hui déjà aussi accès à ce label, mais aussi les entreprises d'animation touristique, les visites guidées par exemple, les musées, etc. Donc font appel à ce protocole, à ce label, qui est un cahier des charges assez sérieux, hein, qui a été mis en place et défini par le tourisme du Portugal, mais aussi par la Direction générale de la santé portugaise. Et donc, voilà, on espère que ça aidera à rassurer les clients, les visiteurs, que nous sommes prêts et que nos entités hôtelières, nos restaurants, nos lieux de vie et d'animation touristique seront aux normes sanitaires. Voilà.
À quelle date est prévue l'ouverture de la saison estivale ?
Eh bien, en fait, il y a deux choses à prendre en compte. D'un point de vue des autorités portugaises, la saison, elle est déjà ouverte, en partie, puisque beaucoup de ces sites sont déjà ouverts. Les musées, je l'expliquais, les hôtels, etc. Les plages qui vont, elles, rouvrir officiellement au 6 juin prochain. Ça, c'est une première chose. Maintenant, l'activité touristique internationale ne dépend pas de nous, elle dépend en grande partie des autorités des pays émetteurs. En l'occurrence, si on prend le cas de la France, aujourd'hui, il n'est pas possible de se déplacer pour un touriste français qui voudrait aller au Portugal ou pas prendre l'avion demain parce que les autorités françaises imposent les règles que vous connaissez, à savoir, mis à part quelques dérogations de santé ou parce que vous avez une résidence principale au Portugal, eh bien, vous ne pourrez pas voyager au Portugal. Eh bien, dès lors que les frontières sont réouvertes, eh bien, rien n'empêche, aujourd'hui, si vous voulez, à part ces restrictions, d'aller au Portugal. Donc, de notre côté, les frontières n'ont jamais été fermées. Il y a eu des restrictions, effectivement, des restrictions aussi pour limiter, évidemment, la diffusion du virus, mais officiellement, les frontières n'ont jamais été complètement fermées.
Très bien. Concernant l'aérien, avez-vous quelques informations de la part des compagnies qui desservent le Portugal sur la reprise de leur activité?
Oui, d'ores et déjà, vous avez une reprise un peu timide, il faut le reconnaître, notamment de la TAP au Portugal et de Air France, qui ont déjà des vols qui atterrissent aujourd'hui au Portugal, sauf qu'évidemment, ils sont occupés par des personnes qui répondent à ces critères. Soit c'est des Français qui ont leur résidence principale au Portugal, soit des personnes qui, pour des raisons de santé, doivent voyager au Portugal, ou pour des raisons prioritaires familiales, mais pas de touristes. En revanche, à partir de mi-juin, à peu près mi-juin, voire fin juin pour certains, la plupart des compagnies annoncent d'ores et déjà une reprise, en tout cas programmée, des opérations. Évidemment, on sera loin de ce qui se passait avant le Covid, hein, puisque nous étions à presque 600 vols par semaine depuis 22 aéroports de France.
Ah oui.
Demain, ce ne sera pas le cas tout de suite. Mais nous savons d'ores et déjà, parce que nous discutons quotidiennement avec les compagnies aériennes, bien entendu, mais aussi avec le tour opérateur, pour que l'opération reprenne le plus tôt possible. Et la plupart d'entre eux sont plutôt dans l'attente de voir si les frontières réouvrent. Beaucoup des compagnies aériennes qui opèrent sur le Portugal sont d'ores et déjà prêtes et ont la volonté de reprendre les opérations d'une manière, on va dire, ou dans un volume qui sera, on va dire, suffisant pour la demande qui sera croissante et progressive sur le retour des touristes français au Portugal.
Et en ce qui concerne les deux régions autonomes que sont Madère et les Açores, sont-elles également en phase de préparation pour l'été? Et qu'en sera-t-il des dessertes aériennes?
Alors pour les archipels des Açores et de Madère, on a moins de vols en temps normal. D'ores et déjà, nous avons discuté avec les compagnies aériennes qui, je pense notamment à celles qui ont des vols pour directs pour Madère, comme Transavia, qui disent être prêts à revenir, mais probablement que ça reviendra plus lentement que les vols vers Porto ou Lisbonne ou vers Faro, donc vers les aéroports du continent, du Portugal continental. Il faut quand même aussi préciser que c'est qu'actuellement, l'archipel des Açores impose, ils sont les seuls à le faire au niveau des régions portugaises, impose une quarantaine. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Madère a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient arrêter cette quarantaine, mais les Açores, ils sont encore en train de voir comment les choses évoluent et comment les négociations se font avec les différents pays européens. Mais il est probable que la reprise se fasse un petit peu plus tard que Lisbonne ou Porto ou l'Algarve. Mais on espère tout de même que dès cet été, il y aura déjà une opération possible sur Madère et les Açores, et notamment après en septembre-octobre, qui reste des saisons toujours intéressantes dans ces deux archipels.
Jean-Pierre Pinheiro, quels sont quelques points forts du Portugal qui contribuent à l'attrait touristique que l'on connaît?
Écoutez, d'une manière globale, indépendamment de la situation du Covid, je dirais que ce sont les critères qui sont ceux qui, habituellement, séduisent les Français, c'est-à-dire le climat, bien entendu, une bonne gastronomie, la population locale qui est considérée comme très accueillante, il y a toujours eu un lien fort entre les Français et les Portugais, la diversité du paysage, puisque c'est une destination, un pays qui n'est pas très grand, mais qui a une forte diversité de paysages du nord au sud, c'est-à-dire qu'en quelques kilomètres, vous passez complètement d'un scénario, d'un paysage différent, une architecture complètement différente, et c'est ce qui plaît beaucoup aux Français, et ce qui explique aussi le succès de tout ce qui est touring, circuit en autocar, fly and drive, beaucoup de Français qui aiment sillonner du nord au sud du Portugal sans forcément rester dans un resort pendant une semaine ou deux semaines, comme le font plus les anglo-saxons, par exemple. Donc, c'est ça les attraits du Portugal, cette variété, cette diversité, la richesse de sa gastronomie, de ses vins, de sa culture, de son architecture. Et puis, il faut le reconnaître, avec la situation du Covid, il y a encore un autre élément qui va peut-être jouer, et nous y croyons en tout cas, c'est le fait que beaucoup d'endroits au Portugal sont quand même assez calmes d'un point de vue de fréquentation touristique, C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, même en plein été, à se retrouver dans des villages à l'intérieur du pays, loin de la confusion, de la pression touristique. Et je pense que après cette phase du Covid, les gens vont être en recherche de calme, sérénité, vont éviter, je pense, dans un premier temps, les resorts bondés, les hôtels de trop grosse capacité. Je crois qu'on a un atout à jouer avec justement cette offre très variée de l'intérieur du pays, de ces petits villages historiques. Je pense notamment à cette route nationale 2 qui a été rétablie il y a quelques mois, qui vous permet de maintenant circuler du nord au sud du Portugal par une route, une ancienne route, vous pourrez presque comparer à la route 66 américaine, c'est un petit peu ça l'idée, où en faisant ce petit trajet du nord au sud, vous traversez des petits villages, vous allez vraiment au plus près de la gastronomie, de la culture portugaise et loin des confusions des grands sites touristiques que les Français vont, je pense, éviter dans un premier temps.
Pouvez-vous partager avec nous vos coups de cœur pour quelques régions?
Oui, alors je pense à... Il y a une partie du nord du Portugal que j'aime beaucoup, qui est la vallée du Douro, que les Français connaissent plus ou moins parce que c'est un endroit où on trouve les vignes du vin de Porto, puisque le vin de Porto, lui, vit dans la ville de Porto, même en face, en fait, pour dire vrai, à Vila Nova de Gaia. Mais la vallée du Douro, où se trouvent tous les vignobles, est un lieu vraiment sympa, puisque vous avez à la fois le fleuve, c'est très paisible, c'est classé au patrimoine naturel de l'UNESCO, de très beaux paysages et de très beaux petits villages que l'on peut découvrir en voiture, très tranquillement. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis sinon, il y a dans la région centre des petits villages historiques. Je pense notamment au village de Chiste, qui sont des petits villages dans plein centre du Portugal, qui sont aussi très sympas. Là, on est vraiment loin, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est loin de cette forte fréquentation des touristes. On est vraiment calme. Et j'aime beaucoup se retrouver comme ça dans un petit village, découvrir la gastronomie, les bons vins locaux. Et puis aussi, évidemment, la montagne avec Madère et les Açores. Ça, c'est la nature à l'état pur. J'aime beaucoup également. Je pense que c'est une bonne option quand on veut découvrir un autre Portugal. Et notamment, je pense aux familles qui veulent tout de même un peu de plage en été. Eh bien, à Madère, vous avez, c'est vrai, la montagne, c'est connu pour cela. Mais vous avez aussi, là c'est beaucoup moins connu, des très belles plages dans l'île de Porto Santo, qui fait partie donc de l'archipel de Madère. Et à Porto Santo, il y a de très très belles plages, de sable fin, et peu de gens le savent. Donc voilà, pour ceux qui veulent à la fois combiner la montagne, la nature exubérante de Madère, mais aussi la plage en famille, eh bien Madère peut être une option intéressante.
Voilà qui nous fait déjà rêver. Et quels sont vos trois premiers marchés émetteurs?
Alors c'est l'Espagne, l'Angleterre et la France, dans cet ordre-là. C'est-à-dire que aujourd'hui l'Espagne est le premier marché émetteur, puisque c'est le pays voisin, bien entendu. La Grande-Bretagne, qui historiquement est notre principal marché émetteur, avec un peu plus de 4 millions de touristes anglais par an. Et la France juste derrière, puisque nous sommes aujourd'hui à 3,2 millions de visiteurs français par an, donc c'est beaucoup.
Le Portugal va accueillir cet automne un événement important pour le tourisme. Quel est le but du forum World for Travel?
Alors, si je devais résumer et simplifier, on pourrait dire que c'est un petit peu le Davos du tourisme. On s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'événement international global autour du tourisme. Et évidemment, il y a des rencontres, des forums annuels, de l'OMT, de l'ETC, WTTC, etc. Donc, ça existe. Mais des forums ou des lieux où se réunissent à la fois les politiques, les institutionnels, mais aussi l'industrie, les privés, ceux qui font le marché du tourisme, mais aussi les habitants, ceux qui sont concernés par le tourisme et très souvent qui sont justement en avant de toutes ces... de tous ces débats sur l'overtourisme, la tourismophobie, etc. Parce que très souvent, on ne prend pas en compte justement la préoccupation des habitants, donc des locaux. Donc, il n'y avait pas d'événement qui pouvait réunir tout ce monde. Et je pense pouvoir dire que ce projet sera le premier forum international qui aura cet objectif et qui réunira vraiment toutes les personnes concernées par le tourisme de manière très large. Et évidemment, on le veut récurrent, c'est-à-dire il y a la première édition cette année, donc le 5 et 6 novembre 2020 à Évora, mais nous souhaitons et nous voulons que ce forum ait une longue vie comme le Davos. C'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, eh bien, ce forum existe toujours et il sera toujours au Portugal, puisque l'idée, c'est qu'il revienne tous les ans au Portugal, à Évora.
Comment s'est fait le choix du Portugal comme pays d'accueil?
Eh bien, écoutez, c'est la conjonction de plusieurs éléments. Les organisateurs, qui sont donc français, avaient depuis quelque temps réfléchi à la question et se demandaient, mais quel était le pays le plus légitime, selon eux, pour incarner justement cette transformation du tourisme, ce nouveau tourisme. Et ils ont estimé que le Portugal était de cela, était le pays qui, ces dernières années, avait montré le bon exemple, qui avait une politique qui allait dans ce sens, de transformation, de nouveau tourisme, le tourisme solidaire. Et donc, aussi symboliquement, ils ont estimé que c'était intéressant que ce soit un pays qui ne soit pas forcément parmi les pays qui sont leaders du secteur, que sont la France, l'Espagne par exemple, donc ou les États-Unis, et mais que ce soit un autre pays qui pourrait avoir une légitimité à prendre la parole et à réunir tout ce monde dans un peu dans un lieu qui serait un petit peu neutre, si je puis dire, un peu comme la Suisse avec le Davos pour le monde de l'économie. Et puis par ailleurs, il y a d'autres facteurs qui sont aussi des facteurs bien de relations, d'amitié, qui sont créées aussi entre les organisateurs et entre aussi notre secrétaire d'État au tourisme, pour différentes raisons, et puis avec nous-mêmes. Donc, ça fait que la sauce a collé et qu'on a trouvé tous que c'était une bonne option que de le faire chez nous au Portugal. Ce forum va avoir tous les principaux partenaires que l'on peut imaginer, hein, c'est-à-dire que nous avons l'ETC avec nous, nous avons le WTTC, l'OMT, nous avons un tas d'organismes, mais aussi au niveau de l'industrie, beaucoup de partenaires déjà qui sont déjà en accord avec les organisateurs de cet événement, et ça va être vraiment un très très bel événement.
Nous suivrons donc avec grand intérêt le déroulement et les conclusions de ce forum. Merci Jean-Pierre Pinheiro, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme du Portugal à Paris. Merci donc pour toutes ces informations indispensables à tous ceux qui souhaiteraient s'évader au Portugal cet été.
Merci à vous tous, merci beaucoup.